Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Nicole Gibeault est avec nous aujourd'hui, juge à la retraite que tout le monde connaît. On parle de deux sujets d'actualité judiciaire, la peine d'Hugo Fredette, vous avez vu ça dans l'actualité. On veut lui donner 50 ans minimum, c'est de la prison à vie, mais on veut pas qu'il ait accès à la libération conditionnelle avant 50 ans. Et on parle également des prescriptions pour les poursuites en matière d'agression civile. Du côté du civil, lorsqu'on veut un dédommagement monétaire, il y avait une prescription. On veut qu'il n'y en ait plus. Nicole nous analyse tout ça tout à l'heure. Ensuite, Maître Jean-Paul Boily, notre chroniqueur, nous parle des subventions aux loyers commerciaux. On savait, il y a beaucoup de subventions qui sont assez faciles d'avoir, mais il y en a une, celle-là, dont il veut nous parler. Il prétend là, qu'il est un peu mal foutu. Ensuite, Cathy Tétrault, on parle des jeunes, il y a des cours en ligne. On se demande, est-ce que les jeunes ont du civisme en ligne? Et pour finir, on répond à vos questions du public que vous nous avez posées sur le Facebook ou sur la ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Beaucoup d'actualités judiciaires cette semaine. Bon, on pense au dossier d'Hugo Fredette qui a passé une semaine. C'est les représentations sur la peine. Beaucoup de gens, on se dit, ben c'est prison à vie, c'est un meurtre. Commençons, on passe beaucoup de temps à déterminer sa peine, mais c'est le fameux cumulatif de l'admissibilité à la libération conditionnelle, 25 ans ou 50 ans. On a débattu de ça cette semaine. Et il y a un autre dossier aussi qu'on va parler avec Nicole Gibeault, juge à la retraite que tout le monde connaît, dossier des prescriptions en matière d'agression sexuelle en civil. Il y avait des prescriptions. Ça devrait peut-être changer. Bonjour, Nicole.
Bonjour, François-David.
Merci d'être là. Donc, on se fait une petite revue d'actualité judiciaire de la semaine, en commençant par ce dossier-là, Hugo Fredette. Ça a brassé, comme on dit, à la cour des experts qui étaient là, disant qu'il était narcissique. Et pourquoi on fait tout ça là, en ce moment?
Oui, bien, c'est ça. Tu l'as bien dit, c'est les représentations sur la peine. Ça se fait régulièrement, des représentations sur la peine, pour donner évidemment la chance à la couronne et à la défense de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, parce qu'on sait qu'on va prendre en considération plusieurs choses. Les facteurs atténuants, s'il y en a, les facteurs aggravants, et ici, on sait qu'il y en a une quantité assez importante de facteurs aggravants. Mm-hmm. Et c'est de ça qu'on a discuté, tout dans le but de, pour la couronne de demander, et c'est fait maintenant à compter de ce matin, c'est officiel, la couronne a demandé le cumul, l'application de l'article sur le cumul des peines, ce qui avait été fait également, ou enfin demandé, là, lors de, enfin une petite référence à Alexandre Bissonnette, mais ici, la grande différence, de toute façon, dans le cas d'Alexandre Bissonnette, on n'ira pas tellement plus loin en disant que ça n'a pas été appliqué non plus, mais que c'est en appel, et que parce qu'on n'est pas allé par bloc de 25 ans, on a fait un calcul là, avec...
On a coupé un 25 ans.
Non, 40, là, parce qu'on a fait des calculs en vertu d'anciens principes ou des principes de droit.
Bon. Mm-hmm. C'est ça, parce que ce cumul-là, puis seulement, j'ai oublié de faire la petite introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier d'Hugo Fredette, là, c'est l'homme là, qui a été reconnu coupable de meurtre premier degré sur son ex-conjointe et qui a déployé, dans le fond, la plus grande alerte Amber au Québec.
Oui.
Et qui a tué également un monsieur dans une halte routière, là, un aîné, là, donc deux meurtres. Là. Désolé, j'avais oublié de mettre la table.
Lacasse, monsieur Lacasse.
Monsieur Lacasse, c'est ça.
Ouais. Alors, regarde, c'est clair qu'on a deux meurtres premier degré, très, très important de le mentionner, évidemment. Donc, on sait, parce que tout le monde se souvient qu'un meurtre au premier degré, c'est 25 ans minimum avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Mais dans le cas de cumul de peine, parce que on a deux meurtres commis dans l'espace d'une heure d'intervalle, ici, là, à peu près, et on pourrait, et on a la loi qui a été instaurée en 2011, permet de demander le cumul, c'est-à-dire deux fois les peines de 25 ans, qu'on cumule les périodes d'inadmissibilité pour une période de 50 ans.
Parce qu'on veut que ça soit plus sévère, que ça donne un plus grand exemple, frapper l'imaginaire.
Oui. Puis ce que la Couronne, et moi j'ai suivi ce procès-là, j'étais à Saint-Jérôme, alors j'ai suivi ce procès-là avec grand intérêt, et je sais que le procureur de la Couronne est très, 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 très impliqué dans ce dossier-là, comme ils se doivent d'être, incluant les avocats de défense autant, là, mais il martèle qu'il s'agit de deux infractions commises dans l'espace d'une heure, mais complètement détachées. Que vraiment, là, le meurtre avec 17 coups de couteau sur Mme Véronique Barbe, sa conjointe, dans le cadre, selon le docteur Chamberlain, on s'en souviendra que cette dame-là avait reçu 17 coups de couteau, ben, c'était dans le cadre de harcèlement parce qu'il voulait absolument pas qu'elle le quitte. Bon, alors il y avait tout ça, il l'avait harcelé par texto. Mais dans le cas de M. Lacasse, Yvon Lacasse, il s'était sauvé avec un enfant, la plus longue alerte Amber qu'il avait pas eu au Canada. Il s'était dirigé dans une halte routière et malheureusement, il a battu à mort. Et c'est la description, on n'ira pas plus loin là parce que c'est vraiment terrible. J'y étais, c'était vraiment terrible. Ouais. Battu à mort, M. Yvon Lacasse. Tout ça pour lui prendre son véhicule, mettre le corps de M. Lacasse et ensuite le jeter dans les boisés, puis les animaux l'ont dévoré, etc. Mais j'ajoute un élément qui a été plaidé hautement par la Couronne et à mon humble avis, avec raison. Le tout s'est fait devant un enfant. Il y avait un enfant de présent en tout temps, selon la Couronne, en tout temps. Donc, il était d'une... C'est tellement tragique, la description de la... et atroce. Il y a une dame qui était venue déposer une lettre et décrivait pas cette semaine-là, mais décrivait ce que l'enfant, en ce moment... il est tellement traumatisé, c'est incroyable. Ben, tout ça pour dire que on insiste pour dire, le docteur Chamberlain, que c'était un individu extrêmement narcissique. Et ce qui est important au niveau des facteurs, et je le sais pour l'avoir appliqué souvent dans des sentences, c'est les facteurs aggravants tels « je ne reconnais pas totalement ma responsabilité ». Il y a une partie, ben, c'est la victime. L'autre partie, c'est parce qu'il voulait protéger son enfant, un enfant qui était autour, puis que il voulait absolument faire intervenir celui-ci là, pour pas qu'il tu sais. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont faites et dites dans ce procès-là, mais malheureusement le tout a fait en sorte que rien de ça a été retenu par le jury. Et heureusement, pour la Couronne, c'est évidemment pour la Couronne, pas pour la défense, mais ils sont arrivés à un meurtre au premier degré. Alors, la défense, dans les deux cas, différents pour la Couronne, complètement des interventions totalement différentes. Évidemment, liées parce que si le premier n'était pas arrivé, le deuxième ne serait pas arrivé, là. Ouais. Mais on comprend que c'est vraiment deux événements différents. Tout ça devant... aux yeux et aux su d'un enfant qui se trouvait sur les yeux.
C'est terrible, mais
ça qu'on demande
en ce moment, ce qu'on veut, c'est le qualifier, là, en voulant dire, est-ce qu'on jette la clé puis il reste emprisonné quasiment toute sa vie, est-ce qu'il sortira à 94 ans, ou on lui permet de se réhabiliter, là?
Oui, je vais t'avouer qu'après avoir écouté le docteur Chamberlain qui dit, écoutez, puis c'est sûr que c'est important pour le tribunal, pas juste parce que le docteur Chamberlain ou quelqu'un d'autre le dit, mais c'est nettement important que de comprendre si l'accusé est trouvé coupable, même s'il est en appel dans un dossier, c'est peut-être là où il y a un frein. Parce qu'il en appelle de son verdict. Alors, est-ce qu'il va aller dire dans la boîte aux témoins, je reconnais ma responsabilité criminelle? Mais c'est parce que c'est un couteau à deux tranchants, parce que quand on reconnaît pas sa responsabilité criminelle, dans les témoignages qu'on a entendus, ben, c'est parce qu'on n'accepte pas pleinement sa responsabilité, puis on veut la partager avec les victimes. Il n'y a aucun partage de responsabilité qui existe quand on soit 17 coups de couteau ou si on est battu à mort. Il n'y a aucun partage de responsabilité, il faut être clair là-dessus.
Ouais.
Donc, c'est nettement dans la colonne des facteurs aggravants et la juge... Il y a une trentaine, François-David, dossiers au Canada, il y en a la moitié de ça qui c'est presque une intervention unique, là, comme dans le cas de M. Bissonnette.
Ben, c'est ça. Parce que, Nicole, on va s'en reparler assurément parce que tout ça est contesté sur la
oui,
constitutionnalité.
Absolument.
Puis on sait même pas si c'est possible de cumuler. Mais on s'en reparlera. Puis il nous reste un peu de temps. On va parler des fameuses prescriptions, dans le fond. On voudrait que quelqu'un qui est victime d'une agression sexuelle, s'il veut poursuivre, dans le fond, pas une poursuite criminelle, là, une condamnation de la prison, mais c'est quelqu'un qui va être dédommagé en argent, avec un dédommagement d'argent, là, si on peut dire, au civil, il y aurait plus de prescription, parce que c'est pas assez, là, explique-nous ça...
Oui, c'est très, très intéressant, puis ça vient tout juste d'arriver aujourd'hui, c'est que la ministre de la Justice a déposé un projet de loi, évidemment, qui vise à rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d'agression sexuelle, d'agression à caractère sexuel, de violence qui est subie pendant l'enfance ou de violence conjugale. Très important, comme tu l'as fait, de voir la différence. Un citoyen n'intente pas de poursuite criminelle. C'est la couronne qui dépose des accusations. Et évidemment, c'est imprescriptible au niveau criminel dans notre droit canadien. Le code criminel, pour ça, c'est imprescriptible.
Il n'y a pas de délai pour porter plainte.
Non, il n'y en a pas.
C'est ça.
Par contre, au civil... moi, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était 3 ans le délai de prescription. Ensuite, ça a été monté à 30 ans le délai de prescription. Et évidemment, il y en a qui ont passé tout juste à 31 ans. Ah, on ne peut pas prescrire.
Bon, on l'a vu, hein, c'est ça, on a vu ça. Il y a des gens qui prennent toute une vie, des fois, à dénoncer. On l'a vu beaucoup avec les congrégations religieuses.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Puis il y en a qui se sont fait barrer la route par cette fameuse prescription de 30 ans. Et je pense que c'est avec grand courage et j'applaudis ce geste de la ministre de la Justice qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de prescription parce que tous les événements ne sont pas pareils, puis les raisons et les motifs pourquoi on n'a pas dénoncé et pourquoi on se réveille 31 ans après au lieu de 29 ans et 3/4. Chacun étant un cas d'espèce, mais pourquoi avoir une prescription? Si, évidemment, on est capable de prouver la faute, le dommage, le lien de causalité en civil, pourquoi avoir une prescription? Alors, c'est un beau projet de loi, puis je pense que, d'après mes lectures, les partis d'opposition ne semblent pas du tout vouloir contester. Au contraire, Mme Véronique Yvon l'a soulevé, qu'elle était nettement en faveur, et je pense qu'on va tenter de le passer avant la clôture du Parlement, c'est-à-dire avant le 12 juin. Ça s'en vient vite.
Ben, c'est bienvenu, c'est sûr, parce que imaginez avoir des droits, vouloir avoir justice, et là, une question technique. Ah, comme tu l'as bien dit, ça fait 31 ans, ça marche plus. C'était assez dramatique comme dénouement, là. Donc, c'est bienvenu comme demande. On espère, on imagine que ça passera, puis c'est dans la logique des choses. Merci beaucoup, Nicole Gibault.
Ça m'a fait plaisir.
Fait qu'on se reparle pour d'autres dossiers. Bye-bye.
Au revoir.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Chronique, la subvention pour les loyers commerciaux mal foutus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boily, qui est là.
Ne me mettez pas des mots dans la bouche, mais effectivement.
L'avez-vous dit ou pas?
Et vous l'avez dit pour moi.
Oui ou non?
Mais oui.
Bon, et on parle bien sûr des subventions. On a entendu, là, dans le fond, les propriétaires d'immeubles peuvent bénéficier d'une subvention pour leurs locataires de 75. Mais c'est un petit peu compliqué, là. Il faut qu'ils assument 25 75 qui aident le locataire terre pour qu'il ne le perde, dans le fond. Exact. Mais ça prend. C'est pas obligatoire. Il faut que tout le monde soit d'accord.
C'est ça.
Mais ça semble pas facile. Là.
Et là, je suis allé voir cette semaine parce que j'ai des clients qui me l'ont demandé. Puis on avait parlé brièvement à l'émission il y a quelques semaines. Puis on n'avait pas tous les tenants et aboutissants du programme. Là, on les a. Et je peux vous dire que c'est pas évident, là. C'est non seulement pas évident, mais quand vous avez dit mal foutu, là, vous m'avez cité, je dirais même que c'est un des programmes, parce que à date, je suis obligé de dire que le gouvernement avait rendu ça accessible, facile, les programmes. On a parlé de la PCU à l'émission, programme de subvention salariale, etc. Assez facile de s'inscrire, etc. Là, j'ai sorti la documentation là cette semaine pour ce programme-là de loyer commercial. C'est le bordel, excusez-moi, là. Parce que là, moi, si je suis l'avocat d'un propriétaire d'immeuble, je vais dire, wow, monsieur, signez pas ça, là. C'est quoi cette foutue merde-là? C'est quoi cette histoire-là? Là, il y a des fonctionnaires, puis je veux peux pas faire de reproches, parce qu'on leur a probablement dit, écoutez, on veut éviter des fraudes, on veut éviter qu'il y ait des gens qui en abusent. Je comprends tout ça. Mais là, lorsqu'on lit ce programme, pas le programme, on lit les engagements que les gens... J'ai calculé, là, j'ai fait un petit décompte. Là. Lorsqu'on veut faire le tour des engagements qu'on prend, on en a pour près de 20 pages. 20 pages! Okay. PCU, il y a deux lignes à remplir. Bon, je veux pas dire qu'il faut pas mettre des clauses, mais lorsqu'on lit ça... Comme avocat, moi, là, les cheveux, puis là, vous savez qu'on en a des cheveux, c'est ainsi, sa tête, là, ben là, ils se dressent tout seuls, sale, pas sale, là, ils montent drette, pas besoin de brêle-crime, rien. J'ai des clauses que je vois là-dedans, là. D'abord, l'engagement pour le propriétaire d'immeuble, il s'engage, oui, il va recevoir un prêt sans intérêt, oui, et il va avoir 50 % du loyer qui va lui être sous forme de prêt subventionné, donc il n'aura pas à le rembourser. Il faut que le locataire lui paye l'autre 25 %, mais il faut qu'il soit d'accord. Puis là, moi, j'en ai vu, j'ai des clients qui sont locataires qui me disent, moi, mon propriétaire, il veut pas perdre 25 % sur le loyer. Il est prêt à me donner un break, excusez l'expression, à me donner un passe-droit pour pas que je paye les loyers pendant quelques mois, mais il veut récupérer. Pourquoi il paierait l'autre 25 %? Il est pas obligé. Puis il y a des propriétaires, vous savez, Maître Bernier, on a des clients, là, d'envie, là, vous savez, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est la pièce. Ils veulent faire de la pièce. Hein? Ils veulent avoir un profit. Ils sont en affaires. C'est pas un OLBL, c'est pas un OSBL pour faire abus non lucratif. Ils veulent faire des profits. Alors, il y a des entreprises qui, malheureusement, des fois, peuvent profiter des situations. Je donne un exemple. Un restaurant qui allait très bien avant la crise, qui se trouve à ne pas payer son loyer parce qu'il n'y a pas de revenus. Il n'est pas capable de payer. Mm-hmm. Ben, si le propriétaire de l'immeuble, deux fois, il y en a qui ont idée de reprendre possession parce que si t'es en défaut, puis t'as une clause dans ton bail qui dit que si t'as pas payé ton loyer, puis que t'es en défaut, puis t'es pas capable de le payer, tu peux reprendre possession des lieux.
COVID
souvent,
ou pas, là.
COVID ou pas, ça n'a rien à voir.
Il n'y a pas de clause de non, force pis, majeure dans
non,
ces comptes.
Non, puis souvent, dans ces baux-là, vous retrouvez les locataires vont prendre en garantie les biens, les équipements pour faire fonctionner le restaurant, les tables, les chaises, les cuisines, etc. Parce que eux autres, ils veulent se garantir un paiement de loyer. Alors, c'est bête, mais c'est tellement facile de dire... Je dis pas que c'est dans tous les cas, mais il y a des cas, par exemple, où des gens pourraient être tentés de dire, puis je l'ai vu, là, j'ai des clients qui m'ont appelé pour dire, le propriétaire me dit, écoute, moi, j'embarque pas dans le programme du fédéral. Mais là, avez-vous lu le programme, monsieur, madame? Le programme dit que, oui, vous êtes pas obligé, mais allez voir. Il dit que vous allez avoir des problèmes à relouer, vous allez avoir des problèmes, ça va vous coûter des frais d'avocat pour mettre fin au bail, etc., etc. Mais des fois, le propriétaire, il s'en fout parce que lui, s'il fait ses calculs, puis il se rend compte qu'il y a un autre locataire qui peut le prendre à un meilleur prix, puis avoir tout ça, les équipements, puis avoir ce qu'il faut pour mettre le locataire dehors, excusez-moi l'expression, avec une petite saisie ou un jugement d'expulsion, bien, il va le faire. Puis, excusez-moi, là, il va se foutre pas mal du programme, puis il le prendra pas. Ah, moi, j'ai entendu cette semaine mieux que ça. J'ai entendu cette semaine, écoutez, si parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais là, un instant, là, on va sortir ça public, je nomme pas de nom, encore, mais on va sortir ça public, puis vous allez devoir vous arranger, non seulement avec votre morale, mais vous allez devoir vous arranger, vous êtes connu, que ce soit à Québec, à Montréal ou en région, vous êtes connu et vous allez être ciblé, vous allez être une persona non grata dans votre propre ville, votre propre village, peu importe. Alors, ce que les gens disent, D'accord, on va le prendre, le programme, si c'est ça, comme ça que vous voulez faire, mais à première petite coche mal taillée ou à première petite chose qui va être un défaut. Vous savez qu'un défaut dans un bail commercial, c'est facile des fois. Les clients nous appellent, ils disent, pouvez-vous trouver un défaut? Le bail, des fois, il y a 50, 60, 80 pages. Des clauses de défaut, des fois, il y en a pour 20, 25 pages. On trouve une petite virgule, puis on trouve un défaut. Alors, dans ce temps-là, le locataire, il se trouve pris entre l'écorce et l'arbre. Puis là, ben si le propriétaire veut pas prendre le... Alors, et là, en lisant le programme cette semaine, c'est là où j'en ai. C'est là où j'ai fait une petite montée de lait. Je veux vous mettre en garde de ce qui est dit. Lorsque je veux prendre le côté des restaurateurs ou des gens qui sont locataires commerciaux, parce que je pense qu'ils doivent être aidés. C'est le but du programme. D'ailleurs, lorsque vous lisez le programme, ça donne toutes les raisons propriétaires pour embarquer dans le programme. Hein, tout ce que je vais donner tout à l'heure et autres. Mais là, lorsqu'on lit ce que le propriétaire doit signer, il doit s'engager à ce que le locataire respecte toutes les normes du programme, c'est-à-dire avoir une perte de 70 % pendant les trois derniers mois, le mars, avril et mai, jusqu'à mi-juin. Et donc, il s'engage pour lui. Et dans l'engagement que le propriétaire prend avec c'est la CHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui va signer pour le gouvernement là-dedans. Et là, écoutez, il y a une clause 9, là, moi, je trouve ça le sublime, là. Il y a une clause, on appelle ça une clause couteau. C'est ça fait mal. Mm-hmm. Ça dit là-dedans que les cas de défaut, parce qu'il y a des cas de défaut, par exemple, si le locataire n'aurait pas fait une bonne déclaration, s'il n'aurait pas dit exactement ses revenus, etc., etc. Et là, on dit, la SCHL établit à son entière discrétion qu'une fraude ou une inconduite imputable au propriétaire ou à ses représentants a eu lieu, ça constitue un cas de défaut. Et ça, c'est à son entière discrétion. Quand je vous disais en préambule là, que moi, si j'étais l'avocat d'un propriétaire d'immeuble, je sais pas si vous avez des immeubles, même dernier, mais si j'étais votre avocat, je vous dirais, « Hey, le cave, signe pas ça, là. » Parce que si tu signes ça, assure-toi que tes locataires, ils ont pas aucun problème, parce que sinon, ça va être... On revient la subvention, puis on charge des intérêts, puis t'as zéro là-dessus. Puis là, ton locataire, excuse-moi, qui t'a fourré, là, parce que ça peut être le cas, là, ben arrange-toi avec, va le collecter. Puis s'il t'a fourré, puis t'as pas une scène, ben tu n'auras pas plus. Bon, alors, c'est là que je dis, c'est mal foutu le programme, parce que non seulement... écoutez, il y a un article là-dedans.
Mais pourquoi c'est mal foutu comme ça? Pourquoi on n'a pas...
Obligé.
Non, ben obligé, c'est une chose, mais pourquoi on n'a pas donné une subvention directement au locataire qui est en difficulté?
Ça, je peux le comprendre.
Pour sauver 25 %
Non, peut-être, mais je peux le comprendre pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de locataire qui mettrait ça dans leur poche puis foutre leur camp, pour que ça les oblige à continuer puis à garder le job. C'est le but. Ça, je le comprends. C'est correct.
Non, mais ça pourrait être dans l'entente, parce que
oui, ça aurait pu être payable aux deux, par exemple, au propriétaire et au locataire.
Et même pas. Je veux dire, moi, j'ai un loyer, je suis redevable. Mettons, j'ai un loyer, oui. Je suis redevable au propriétaire. Bien,
je comprends.
J'ai une subvention, je le paye, puis il ne pourra jamais m'invoquer un défaut.
Je comprends.
Mais là, il y a
un autre cas qu'il faut regarder, parce que ça aussi, il y a des locataires qui ne sont pas toujours. Il y en a qui sont véreux, ça arrive aussi. Ils prennent l'argent, mettent dans leur poche, ne payent pas le propriétaire, puis s'en vont après.
Mais alors, ça devrait être une condition de.
Exact. C'est là qu'on a voulu éviter. Écoutez, j'ai trouvé une autre clause. C'est suave. C'est vraiment drôle. Parce que on dit que dans l'échantillon que l'engagement que le locataire doit prendre, il y a ce qu'on appelle une déclaration d'intégrité. Hein? Vous êtes intègre, vous êtes un bon locataire. Là, vous allez déclarer ce qui suit. Et puis là-dedans, on dit que le propriétaire ne contrevient pas et a obtenu tous les consentements qui peuvent être requis de la part de ses prêteurs. Mais le propriétaire d'immeuble, là, lorsqu'il va faire un prêt à la banque, ben on appelle ça une garantie. Des fois, on donne les loyers en garantie. La banque dit, si jamais tu me payes pas, mon vilain propriétaire, je vais saisir tes loyers puis je vais aller chercher tes loyers en garantie. Mm-hmm. Ah! Là, dans le programme, on dit qu'on doit aviser la banque. Alors, s'il y a un défaut, écoutez, c'est une question rhétorique, mais s'il y a un défaut que le propriétaire n'a pas avisé sa banque, ça devient un défaut du programme et le programme n'est plus le locataire n'est plus éligible. Alors, c'est quand on dit que c'est mal ficelé, oui, c'était pavé de, vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais il reste que c'est un programme qui est plein de bonnes intentions. Mais la façon dont on l'a appliqué, puis cette semaine, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, le président est sorti d'ailleurs pour dire, il n'a peut-être pas décortiqué comme on le fait aujourd'hui, mais il a dit que la manière que le programme est sorti, l'application de ce programme-là est mal foutue également, parce que c'est là, avec toutes ces embûches-là, puis le fait que, comme on vous dit, c'est pas obligatoire. Alors, je pense qu'on va devoir revoir ça, le rendre obligatoire, sinon, il y a un paquet de gens, je dis pas que tout le monde, il y a des gens que je sais que le programme, ils vont l'appliquer, sont de bonne foi, c'est pas tout le monde des CR, puis je dirais pas le reste du mot, là, mais il y a plein de gens qui sont de bonne foi, qui vont le faire, mais il y a plein de gens qui, malheureusement, ne pourront pas bénéficier parce qu'il y a des il y a des équipes. Moi, j'appelle ça les quins d'un bord, les requins de l'autre. Là. Alors, c'est ça. Il y a des gens qui sont pas capables de si c'est pas obligatoire, et puis ça va faire en sorte qu'il y a encore plus d'entreprises qui vont être mal prises à cause de... pas à cause du programme, mais à cause de l'absence de programme obligatoire.
Bon. Merci, Matt Bolli. Je suis pas surpris. Honnêtement, moi, je pense... Parce que des fois, il y a une différence entre annoncer de la belle argent. Oui. Parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'annonces, puis je me disais, dans l'application, ça va-tu être faisable de l'avoir?
Ben voilà.
J'ai été surpris des autres programmes, de la facilité.
Très bien.
Mais je savais qu'il y en a un qui allait accrocher et on l'a identifié.
On l'a avocat à la barre, vous l'avez dans le nez.
Bon, à revoir, parce que c'est important aussi, évidemment, de ne pas perdre son loyer. Puis je comprends toute l'abus.
Il y a des jobs en arrière de ça, faut pas oublier ça. Là.
Merci, Matt Bolli.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Vous savez, avec nos enfants, on veut les éduquer. Hein? On passe aux jeunes, bon, les manières à la table, bon, manger de la bouche fermée, pas roter en public. Et on les éduque dans le civisme. Tu sais, je veux dire, il y a des comportements en société à avoir. Maintenant, par contre, on se rend compte, nouvelle réalité, nouveau. C'est-tu vraiment nouveau? Mais c'est là, tout ce qui est web, tout ce qui est médias sociaux. On est rendu, je pense, qu'il faut éduquer nos enfants au civisme en ligne. Parce que j'ai des informations que c'est pas acquis, ça. On en parle avec Cathy Tétrault, directrice du Centre CyberAide. Bonjour, Cathy.
Bonjour.
Donc, est-ce que nos jeunes ont du civisme en ligne?
je dis parce que c'est gros comme question. En ce moment, pendant le temps de confinement, j'ai l'impression qu'il y en a moins un peu.
Parce que, tu sais, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais on parle de ça parce qu'il y a des cours qui se donnent en ligne là, et que tout le monde peut intervenir. Là.
Exactement.
C'est là-dessus que je pense que ça a dérapé dans certains cas. Là.
Oui, parce qu'on a reçu des appels au centre CyberAide de parents, mais aussi d'enseignants et d'éducatrices spécialisées qui disaient il y a quelque chose qui se passe en ligne, lors des cours en ligne, qui ne se passait pas en classe. C'est normal, en classe, c'est bien établi. Hein. Il y a un code de vie de l'école. Si on lève pas la main, puis on coupe. Là. Tu sais, donc, ils sont habitués en présentiel. Puis là, ils sont tombés en mode virtuel. On dirait qu'ils ont perdu un peu, pas tous, mais quelques élèves là ou étudiants, même collégiales universitaires, ont perdu leur repère. Le civisme ou les règles d'éthique, là. T'sais, donc, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai perçu dans les demandes d'aide. Et puis là, je trouve ça important de sensibiliser les parents à comment on fait aussi pour les encadrer, là. Est-ce qu'on les laisse tout seuls aller dans leurs cours en ligne comme ça ou il y a de la préparation à faire?
T'sais? Ben, perdu leur repère, est-ce qu'il y en a? Je veux dire, on les éduque dans tous les domaines, on se cachera pas. Peut-être c'est négligé, ça, cette partie-là. Cathy, tu as peut-être mis le doigt sur... Est-ce qu'on aura... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais des cours, on apprenait à coudre.
Oui,
on apprenait à à faire de la nourriture. On nous apprenait des choses comme ça. Est-ce qu'il y a lieu, parce que maintenant, le virtuel est omniprésent, et là, on leur tape ses doigts disant « Vous savez pas vivre, vous n'avez pas de civisme en ligne », mais est-ce qu'on leur a déjà expliqué ça? Est-ce qu'on leur a dit que derrière un clavier, c'est comme si on s'exprimait devant les gens? Je ne sais pas s'ils sont éduqués à ça.
Ben, ils ont eu de la préparation, tu sais, en lien avec le plan de lutte à l'intimidation hein, depuis 2012. Mm-hmm. Ils ont, tu sais, qui est obligatoire dans les écoles. Il y a de la sensibilisation, de la prévention, tout ça. Il y a des conférences pour les parents.
Okay.
Mais c'était lors d'échanges en ligne ou lorsque tout le monde est dans le cours d'école. Dans le temps de confinement, c'est la première fois que ça arrive. Là, c'est-à-dire, on veut pas leur taper sur les doigts. On veut leur dire, par contre, qu'on dirait qu'il y a un relâchement. On dirait qu'ils sont plus responsables de ce qu'ils font parce qu'ils sont en ligne. On dirait qu'ils l'utilisent un peu comme quand ils sont avec leurs amis. Des arguments. Ils peuvent éteindre l'écran. Argumentent l'enseignant. Parlent en même temps que l'enseignant. L'habillement. Il y en a qui restent couchés devant leur écran pendant le cours. Tu sais, donc, on parle tous des ados. Mais que ce soit école primaire, secondaire, collégiale, universitaire, chaque enseignant ou chaque élève, étudiant, ont eu des difficultés, pas tous, mais c'est comment on s'ajuste. Puis là, je me dis, ben, faut les préparer parce que les cours hybrides, là, en ligne et présentiel, ils vont en avoir, hein? C'est ça qu'ils annoncent. Alors, comment on fait pour dire, ben là, c'est parce qu'il faut que je m'assure que mon enfant soit empreinte civisme. Je donne un exemple. S'il y en a un qui niaise tout le temps en classe, il y a de l'intervention, on appelle l'éducatrice, elle vient le chercher, puis elle règle ça. Pourquoi tu fais ça, blabla? En ligne, tu n'as pas d'éducatrice vraiment. Puis, comment gérer le groupe 30-40 jeunes, que ça part tout à rire? Tu sais, ils sont chez eux.
Mm-hmm.
Ils sont en ligne, mais ils sont chez eux. Alors, ils sentent comme moins gênés ou un peu plus libres, finalement. Puis, là, on se dit, j'ai une école primaire, d'ailleurs, qui m'a envoyé un document qu'elle a fait là, sur l'école Marie-Renoir à Québec. Là, c'est enseignement explicite de l'année d'étiquette en vidéoconférence pour les élèves à l'école primaire.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, alors, il y a tout à apprendre de dire, bon, OK, comment on développe le civisme en ligne? Comment on l'a développé dans le monde réel? Ben, on fait les transferts. Okay. On fait vraiment les transferts. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que puis c'est embryonnaire malgré tout. Je pense ce qu'on parle aujourd'hui, c'est l'avenir. Là. Je veux dire, là, il y a la pandémie, mais on a adapté en peu de temps, on a vraiment adapté tout sur le virtuel. Je ne dis pas qu'on ne sortira plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester. Puis je pense ce qu'on établit en virtuel, on va peut-être continuer à avoir une certaine pratique. En tout cas, moi, dans le domaine judiciaire, c'est sûr que ça va rester. Là. Mais il y a peut-être lieu de développer ça, parce que c'est une nouvelle ère. Il faut les former à ça. Parce que comme je disais aussi, puis je voudrais t'entendre là-dessus, il y a le manque de civisme. Il y a des jeunes qui comprennent mal jusqu'où ils peuvent aller. On peut les former, les éduquer. Ça, je pense que ça va bien aller. Puis de mettre des programmes, c'est bon.
Oui.
Mais jusqu'où ça va, cette délinquance virtuelle-là? As-tu vu des cas où ça franchit la ligne?
Oui, c'est ça l'affaire. C'est que, comme dans le monde réel, il y en a qui dépassent la ligne. Tu sais, il y a un faible pourcentage d'élèves ou d'étudiants qui vont malheureusement avoir des problèmes de comportement ou dans la vie puis qui vont dépasser. Mm-hmm. Ça s'est fait. J'ai eu vraiment de sources sûres là à l'université et dans certains collèges que des gens ont demandé de l'aide parce qu'ils ont eu du harcèlement sexuel entre étudiants.
Aïe aïe.
Donc il y a tellement de gens qui sont concernés en même temps pour un cours en ligne et quand c'est devenu du harcèlement sexuel, mais moi, je pense même pas, en tout cas, j'espère que la personne qui en fait est probablement pas consciente que c'est du harcèlement. Tu sais, mais des blagues grivoises, là, des blagues à connotation sexuelle, c'est malaisant. Mais là, si ça devient du harcèlement,
ben oui.
Là, c'est là que je ne sais pas où les droits de la personne dans un contexte d'un confinement, dans un contexte de cours en ligne.
Le harcèlement, d'ailleurs, le harcèlement informatique est, en ligne est beaucoup plus facile à prouver que celui qui arrive dans la vie de tous les jours. Il y a des traces. C'est sûr que la personne qui fait ça... Est-ce qu'elle est consciente? Je ne sais pas, mais elle n'est pas consciente que s'il y a des poursuites, ça serait plus facile de faire la preuve parce qu'ils écriraient, paroles s'envolent. Donc, c'est certain qu'il y a tout un monde là-dessus. Au moins, on est capable de retracer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais encore là, c'est peut-être c'est comme je dis dans le temps, parce que je pense que ça a changé beaucoup, les mononcles cochons au travail.
Vous me surprenez toujours, Maître Bernier.
Il y en a qui faisaient ça. Un autre air. Il y en a encore, mais si.
Il y en a encore.
Ceux qui ne comprennent pas le message après MeToo et etc., on a l'impression qu'ils habitent dans une caverne. Je veux dire, ils n'ont pas compris. Là, ça se fait plus. Ça se fait plus. Ils vont avoir des conséquences, ça se fait.
Mais tu sais, quand tu dis que ça reste les écrits, mais c'est parce qu'ils font en direct, en ligne, puis c'est pas tous les enseignants qui enregistrent les cours au fur et à mesure. Donc, il y a des gens qui ont entendu, oui, mais est-ce qu'il y a des preuves? Pas tout le temps. C'est comme s'il se dit, Il y a des témoins.
Je pense qu'ils font informer ça. J'ai souvent informé des clients, des clientes à cette réalité informatique-là, qu'on appelle print screen, ou en bon québécois, la capture d'écran. Ça peut nous aider. Si on sent que quelqu'un s'en va dans cette direction-là, puis que ça augmente, c'est toujours l'escalade dans n'importe quoi.
C'est vrai qu'on peut enregistrer.
Qu'on peut prendre une capture d'écran. C'est ça.
Mais quand c'est dit avec des paroles lors des cours en direct.
OK, je comprends. Ouais, je comprenais mal. Moi, je vois des écrits.
Oui, bien, c'est ça. C'est là où.
C'est comme dans la réalité, il y a des témoins aussi. C'est sûr.
Oui, c'est ça. Donc, il y aurait des recours, là. Toi, en tant qu'avocat, là, dans le fond, les mêmes recours pour les victimes de harcèlement psychologique ou sexuel en vrai pourrait dire lors de tel cours avec plusieurs témoins, la personne m'envoyait toutes sortes de me harcèle ou m'intimide.
Mais tu sais, Cathy, n'importe qui est dans le public va le savoir. J'ajoute mon opinion à ça, c'est qu'en ce moment, là, c'est toujours le Far West sur le web. Il y a des trolls, des harceleurs, honnêtement, là, c'est parce que c'est nouveau encore le web, ça fait longtemps, mais c'est nouveau dans la gestion, dans l'organisation, dans les lois sur le web. On est aucunement équipé et les gens font ce qu'ils veulent. On se rend compte qu'un jeune aussi qui n'a pas de formation va faire ce qu'il veut, il ne comprend pas les conséquences jusqu'à temps que la police cogne à la porte. Là, ils comprennent, mais malheureusement, ils se sentent invincibles derrière un clavier. Puis on le voit dans toutes sortes de domaines. Puis ça devra s'ajuster à un moment donné pour avoir des lois sévère, parce que je pense que ça dérape, là. Ça commence à déraper dans bien des domaines.
Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent, j'ai un débat à la maison, on trouve un sujet, on va chercher de la vraie information, on s'assoit autour de la table, puis on apprend à écouter, à juger, à débattre. C'est ça le civisme, hein? Mm-hmm. Alors, si cet exemple-là, par exemple, les parents décident de le faire, mais c'est là qu'on va apprendre à nos enfants. Regarde, ce qu'on fait en ce moment, c'est la même chose sur le web. Si tu veux aller commenter quelque chose, si tu veux aller débattre d'une opinion, on fait fi de la colère, on fait fi des menaces, on fait fi de tout ça, puis on s'assure qu'on dit la vérité, on s'assure qu'on se base sur la vérité aussi. Parce que ça, c'est développer des compétences pour nos enfants, futurs adultes, qui vont probablement justement se servir encore plus que nous des écrans du web.
Bien dit, Cathy Tétrault, on retient ça. Éduquez vos enfants, pas seulement dans le monde réel, mais dans le monde virtuel également. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. On s'en reparlera certainement.
Oui,
bye bye.
Très intéressant. Bonne journée à vous. Merci.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict
avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
On poursuit avec les questions du public, vos questions que vous nous posez via les médias sociaux, Facebook, la ligne Cube Radio avec Maître Boily qui répond. Bonjour, qui est avec nous.
Bonjour à distance. Okay.
Parfait. On y va. Frédéric S. de Matane qui nous demande si les généraux américains ont le pouvoir de contrer un ordre du président Trump d'envoyer l'armée pour mater les contestataires. Évidemment, on parle du dossier George Floyd, toutes les manifestations qu'il y a eu aux États-Unis. Le président Trump qui a dit « je vais envoyer l'armée » sans même la demande des gouverneurs, qui ressemble à une dictature.
Oui, un peu.
Donc, est-ce que c'est correct, ça?
Bien, il faut comprendre les délégations d'autorité. Hein. Vous savez que le président américain, contrairement à nous autres ou à notre premier ministre, c'est le chef des armées aux États-Unis. Lorsque tu deviens président américain... L'exemple le plus frappant, c'est lorsqu'il embarque ou débarque d'un avion, qu'il soit militaire, civil, ou sauf qu'un militaire, il salue. Il fait le salut militaire, c'est lui le général en chef. Mm-hmm. Donc, mais aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les généraux 5 étoiles aussi. Ça, il y en a 5 ou 6, armée de terre, armée de l'air, marine et peut-être technologie et enquête. Là, il n'y en a pas plus que ça. Ça, c'est les top généraux aux États-Unis. Ces gens-là, en principe, c'est eux qui mènent la milice ou enfin les militaires aux États-Unis. C'est eux qui ont le pouvoir. Mais c'est toujours réserve sur votre ami Donald, qui est maintenant le général en chef des armées. Alors lui, en principe, les militaires, les généraux, les 5 étoiles et ceux qui leur subordonnés, là, ils doivent respecter toujours la hiérarchie de pouvoir. Mais effectivement, il pourrait refuser un ordre. Vous savez, il y a eu tout le procès de Nuremberg à l'époque, savoir si, les généraux militaires qui plaidaient, ben moi, j'ai eu l'ordre d'en haut, c'est Hitler qui a dit ça, ou Himmler, ou alors moi, je n'ai fait que respecter les ordres, vous ne pouvez pas me condamner. Il y a une responsabilité quand même, et on a vu cette semaine, là, M. Trudeau, on lui a posé la question, il a pris 21 secondes pour y penser, puis il n'a pas répondu. Vous dirais.
C'est quoi la question?
La question, c'est que un journaliste anglophone lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de la réaction de M. Trump, justement, d'envoyer l'armée pour venir mater les manifestations. Alors, bon, que le droit de manifester est un droit qui est constitutionnel au Canada, aux États-Unis aussi.
Il parlait des manifestations violentes.
Oui, exact. Mais il reste que Trudeau a pris 21 secondes pour ne pas répondre, puis qui ne dit mot ne consent pas nécessairement. Là. Moi, je vais vous donner un exemple qu'un de mes professeurs, qui est un ancien maire de Montréal, Jean Drapeau, pour ne pas le nommer, m'avait dit un moment donné lors d'un cours, parce qu'il était professeur invité à l'université à l'époque, puis il nous avait dit, dans son langage qu'on connaissait, il nous avait dit, les jeunes, les mots que vous n'avez pas dit, vous les contrôlez encore. Alors, Trudeau a fait ça cette semaine, puis Jean Drapeau était maire de Montréal pendant 25 ans, c'était pas bien bon pour nous, mais il parlait pas beaucoup aux médias, on a changé beaucoup depuis, là, mais dans ce temps-là, il y avait pas ce qu'il fallait. Mais il reste que ce que Trudeau a fait cette semaine, ben en quelque part, Trump peut pas lui reprocher d'avoir dit quelque chose contre lui, il a rien dit. Vous savez, des fois, en droit, on est des avocats, on parlait de précipitation des faits à la cour, vous savez, des fois, les juges, il y a des mimiques ou il y a des silences, des fois, qui veulent en dire long. Lorsqu'on interroge ou on contre-interroge un témoin, puis que quelqu'un ne répond pas ou fait des signes de tête, ou ça rentre pas dans les notes sténographiques, mais c'est une des raisons pour laquelle les tribunaux d'appel ne revisent pas les faits, parce que le juge de première instance, le juge qui voit les témoins, qui les voit s'exprimer, des fois, de façon non-verbale, des silences, des fois, ça peut en dire long aussi. Alors, c'est un peu comme ça, et on en revient à notre question, là, parce que M. Trump, lui, cette semaine, a dit, écoutez, ça fait pas, on va envoyer l'armée, puis à l'encontre, comme vous dites, de gouverneur qui dit non, il n'y en a pas question. Écoutez, il y a des réponses des fois qui sont données. Il y a des généraux américains certainement qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a d'autres qui sont peut-être, parce que des fois, pour être dans l'armée, des fois, il y a des gens qui montent les grades. Généralement, c'est pas bête aussi d'être du côté du pouvoir, parce que ça aide à monter en grade, on ne se le cachera pas. Mais il reste qu'il y a des décisions qui peuvent être prises par le président américain, pour lesquelles on a vu des démissions. M. Trump, je pense, depuis son administration est là, il y a le record du monde des démissions. Là. Les gens ne sont pas toujours d'accord avec lui. Alors, est-ce que les généraux pourraient venir contrevenir à un ordre de façon légale? Alors, comme c'est la hiérarchie qui prévoit que le général en chef aux États-Unis, c'est le président, en principe, légalement, non, mais comme question de fait, ben le silence de Trudeau pourrait être le silence de généraux qui dit, ben là, tu vas envoyer l'armée.
Mais
le général, il
légalement, ce que je comprends, il peut, mais ça aurait fait tout qu'un...
C'est-à-dire que légalement, le général ne peut pas contrevenir à la décision du haut dirigeant.
C'est ça, mais Trump aurait pu envoyer l'armée légalement parlant, c'était légal.
Oui.
Mais ça aurait fait.
Mais si le général en chef, le 5 étoiles, décide de ne pas l'envoyer parce qu'il ne répond pas à ses demandes, bien, c'est un peu comme on disait tout à l'heure. Et, qui ne dit mot ne consent pas nécessairement. Ouais. Donc, mais ça là, pourrait faire en sorte qu'il pourrait contrevenir. Mais, excusez, sa job, d'après moi, le lendemain, il l'aura.
Il y a un ordre du président qu'un général important ne respecte pas.
Exactement. Alors, ça serait assez difficile, mais ça pourrait arriver en fait. Mais en droit, c'est certain que ce général-là, il risque de voir ses étoiles s'envoler en poussière.
Ah non, c'est
un petit coup sur l'épaule, plus d'étoiles.
Merci. Donc, ensuite, il y a Marie-France, elle, de Chambly, qui nous a texté sur la ligne 187 Cube Radio pour savoir s'il y avait des conditions précises qu'elle devra respecter lors de son voyage de pêche prévu pour le début juillet dans la Mauricie.
Ouais, ça, oui. Ça a été annoncé, ça aussi. Là. Il y a des... il y a des ZEC là, qui ont été réservés, puis on dit que on essaie, dans les pourvoiries, là, puis dans tous ces endroits-là, d'avoir des règles. D'abord, les règles de distanciation sociale sont toujours là. Mm-hmm. Les mêmes règles s'appliquent qu'on a vues. Là. Bon, pas plus que 3 familles, pas plus que 10 personnes. Et les chalets doivent être faits en conséquence. Si vous êtes une même famille ensemble, bon, vous avez, je sais pas, le mari, la femme, les enfants, il n'y a pas de problème. Faites dans le même chalet, c'est la même chose que chez vous. Bon, on a dit qu'on devait désinfecter tout ça à chaque fois. Les propriétaires de ZEC doivent prendre des mesures de désinfectation, les chaloupes, les cannes à pêche, etc. Écoutez, il y a des choses à faire, c'est certain. Là où ça devient plus compliqué, c'est que si vous avez un voyage de pêche, comme on faisait les boys dans le temps, là, on rentrait plus de caisses de bière que d'autres choses dans l'avion, mais il reste que vous pouvez à ce moment-là voyager, mais là, le problème, c'est de savoir, si vous n'êtes pas de la même famille, ben dans l'avion, vous devez garder à distance sociale. Si vous faites un voyage de pêche, en auto, c'est la même chose. Alors, on sait qu'on peut embarquer un en avant, l'autre en arrière. Si vous êtes de la même famille, c'est correct. Sinon, ben ça prendra peut-être 2 véhicules au lieu d'un seul si vous êtes 4. Hein, 4 n'est pas de la même famille. Les gens, par exemple, qui vont, comme elle parle d'aller en Mauricie, bon, probablement en voiture. Donc, c'est un peu ça. Va falloir respecter ces règles-là jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles règles démises, mais pour l'instant, ce qui est permis, c'est ça. Et si vous ne suivez pas ces règles-là, encore là, il y a des gens qui pourront vous donner des amendes. Oui,
mais Maître Boily, croyez-vous à ça?
Ben non, mais...
Il n'y en aura pas d'amende.
On nous demande en principe, alors on répond.
Mais... Honnêtement... Tu sais, il n'y en aura pas d'amende. Mais la vraie amende, la vraie étiquette, là, c'est à l'automne, quand il se met à faire noir à 4 heures, puis le confinement revient. Là.
Exact.
Ah, parce que le premier confinement, là, on avait le printemps exact. Arrivait, le monde n'était plus de bonne humeur.
Mais
revenir en arrière, exact. C'est ça le réel danger. Vous n'aurez pas la police qui va vous l'interdire.
Non, là, ça va être
mais
la lumière
de l'octobre. Mais le petit virus, il se propage.
Ouais. Exact. Non, ça, c'est certain. Il faut faire attention quand même. Donc, vous avez raison. On n'a pas besoin d'amende. Il faut juste comprendre le gros bon sens puis appliquer ces règles-là parce que ces règles-là de distanciation sociale vont faire que le virus va moins se propager. Puis là, on voit la courbe descend, tant mieux. C'est pas le temps de la faire remonter. Alors, respectez ça pour la pêche aussi. Ça va bien aller. Écoutez, c'est des endroits qui sont propices, justement, pour faire des activités où on n'est pas au centre-ville, où on peut être en famille à l'extérieur, puis on peut même se regrouper encore là 10 en respectant ces règles-là. Vous êtes à l'extérieur la majorité de la journée, profitez-en, prenez de la truite en masse, mangez-la à distance.
Mais ça s'applique à toutes sortes de voyages. Il y a des précautions à prendre.
Ouais,
Emmanuel P. qui nous écrit sur la page Facebook pour savoir si l'annonce faite par le maire de Québec cette semaine de permettre la consommation d'alcool dans les parcs va pouvoir s'appliquer aussi aux autres municipalités.
Oui, la Ville de Québec a été précurseur. On a entendu le Régis Labeaume cette semaine dire, écoutez, nous autres, on veut que les gens soient déconfinés. Là. C'est pas bête de dire, écoutez, parce que À Québec, bon, un peu comme au Parc La Fontaine à Montréal, ici, les Plaines d'Abraham, il y a des parcs un peu partout dans toutes les municipalités du Québec. Bon, je pense que ce que Québec va peut-être donner le ton à ça. Est-ce que Mme Plante à Montréal va faire la même chose? On l'espère. Parce que ça permet aux gens de... On l'a vu au Parc La Fontaine, là. Il y a des rassemblements qui se font. Maintenant, les gens commencent à comprendre qu'il faut être à distance. Donc là, on permet, parce que la consommation d'alcool dans les parcs, dans plusieurs municipalités, c'est interdit. On l'a vu, ça, sur les Plaines d'Abraham, c'est interdit. Il y a certaines places à Montréal, où c'est des municipalités, Westmount, il y a des endroits où c'est interdit. Or là, ouais. En rendant ça, parce que vous savez, c'est interdit, mais le vieux truc du petit sac brun, là, ça fait un job, ça aussi.
Ah, mais... Ah oui, c'est sûr.
Mais il reste que quand c'est interdit, ben vous êtes passible d'amende, puis c'est pas le fun. Prendre un petit verre de vin, puis au lieu de payer la bouteille 20 $ elle vous en coûte 200,
c'est moins grave. Mais cette permission-là de la Ville oui. de Québec, là, on reste une minute, oui. mais on a parlé dans l'autre émission des restaurateurs qui oui. ont de la misère.
C'est pas la meilleure idée.
Si les terrasses ouvrent, si... Mais ça semble que ça va leur faire mal.
Ça peut leur faire mal d'un côté, mais d'un autre côté, il faut comprendre. Là, les gens sont confinés. Il y a certaines activités qui reprennent. On a vu des sports qui reprennent, etc., ouais. etc. Alors, c'est pas bête de permettre aux gens, parce qu'il n'y a pas juste ça. On parle des barbecues également. Vous savez, il y a des familles. C'est pas tout le monde qui va dans les restaurants.
Non, je veux pas. Je veux pas interdire.
Mais il y a une question de moyens. C'est sûr.
J'y pense comme ça parce que
ça peut nuire.
Les restaurateurs ont de la misère, on les ferme. Puis là, on autorise l'impact, mais on va les réouvrir, ouais. mais on va pouvoir aussi d'impact. Peut-être que ça va influencer ces terrasses.
Questionnement,
on en reparlera parce qu'on n'a plus de temps, Maître
Boily. Ça fait 3 mois que vous n'allez pas au restaurant. Je suis certain que vous allez avoir hâte d'amener votre blonde.
Ah, j'avoue. Bon, merci, Maître Boily. Merci aux auditeurs, merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.